Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Questions de femmes, nous allons parler des liens familiaux, mais de liens bien particuliers, ceux qui unissent les mères à leurs filles. Pour comprendre les composantes d'une relation apaisée. Comprendre surtout, en cas de conflit persistant, de tension qui empoisonne la vie à la maison et au-delà, comment identifier les points de friction, les sujets qui fâchent. Comprendre aussi l'impact que ces crises mère-fille peuvent avoir sur la santé de chacune. Essayer de cerner ce qui peut favoriser une bonne entente, améliorer le quotidien, changer sa façon de communiquer, de mieux donner, de mieux recevoir, relations fusionnelles, disputes incessantes, remarques blessantes, déceptions, conflits de génération, rivalité ou complicité, respect, inspiration, entraide, relations mère-fille. Vous avez la parole aujourd'hui dans Priorité Santé pour témoigner, poser toutes vos questions à notre numéro WhatsApp au 33 7 71 18 46 41. Rivalité, complicité, mère-fille, améliorer la situation, améliorer la relation. Nous retrouvons en ligne du Sénégal, Soukenya Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie clinique à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, où vous êtes maîtresse de conférence au département de psychologie. Et l'on vous retrouve dans les studios de RFI en Foulfoulde et Mandinkan, dont on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé ? Si on en parlait.
Donc cette relation mère-fille au cœur de cette émission sous Soukenya Diop, un lien qui va bien sûr évoluer au fil des années, il n'est pas statique. On peut parler d'une relation réussie, on peut aussi parler des problèmes quand on observe précisément un duo mère-fille en harmonie. Alors si l'on essaie précisément de définir une relation saine entre une mère et sa fille, on va évoquer quel type d'interaction, de partage et de limites.
Alors, je pense que le premier point, ce serait la confiance, tout en tenant compte du fait que toutes les relations mère-fille ne sont pas similaires et que les personnes peuvent avoir une bonne relation sans toutefois être complices. Il peut y avoir une certaine distance entre mère et fille, mais la confiance est une valeur importante pour se sentir en sécurité, pour pouvoir avoir recours à la mère ou à la fille.
Même une belle relation peut prendre plusieurs formes. Relation apaisée dès la petite enfance, et puis il peut y avoir différents tempos dans cette relation. Par exemple, rupture à l'adolescence. Soukenya Diop, est-ce que vous avez le sentiment que cette relation peut se compliquer à certains âges, à certaines périodes qui sont plus tendues que d'autres ?
Effectivement, la relation n'a pas réellement de raison habituelle de se compliquer pendant la petite enfance. Mais lorsqu'il s'agit de l'adolescence et le fait que la jeune fille grandit et veut avoir son espace, il y a souvent des conflits à ce moment-là parce que justement, elle ne veut pas reproduire le même que la mère. Elle veut avoir son propre espace. Et aussi, tous les éléments autour, comme la présence des autres personnes de la famille, la présence des autres frères et sœurs, la présence du père, qui peuvent avoir aussi des impacts et des influences sur cette relation. Par contre, la relation après l'adolescence, en général, se reconstitue petit à petit. Maintenant, il y a des choix de vie qu'on peut faire qui peuvent être pour des raisons politiques, religieuses, professionnelles, qui peuvent être en désaccord fondamental entre les deux personnes. Et ça, ça peut ajouter une raison supplémentaire de créer une distance.
Une question un petit peu brutale. Est-ce qu'une relation mère-fille détériorée, ça peut rendre, à proprement parler, malade ?
Je ne suis pas sûre qu'on puisse affirmer que c'est la relation mère-fille qui, étant détériorée, peut rendre malade. Parce qu'on a deux parents, en général. Et on n'a pas seulement deux parents. Il y a beaucoup d'autres membres de la famille qui peuvent intervenir dans l'éducation d'un enfant. On peut avoir une relation mère-fille difficile, mais avoir plein d'autres éléments de compensation qui nous permettent aussi de se sentir bien, de construire une vie saine. Dans tous les cas, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui créent cette vulnérabilité.
Et précisément, vulnérabilité qui peut conduire à quels symptômes, quels ressentis ?
La première chose à laquelle on pense, c'est les troubles de l'estime de soi, à cause des critiques ou des dévalorisations, on se sente soi-même en difficulté par rapport à son image, incapable d'accomplir certains objectifs, incapable d'aller au bout de certaines tâches. Et peut-être que ce sont les secteurs qui peuvent être le plus impactés. Et les troubles de l'estime de soi peuvent générer d'autres problèmes, de l'anxiété par exemple, ou parfois des difficultés d'assurance qui peuvent causer des problèmes dans le cadre professionnel, dans la vie sentimentale.
Et en consultation, dans la plupart des cas, Soukaina Diop, vous percevez une plainte davantage chez les filles ou chez les mères ?
Je ne suis pas sûre de pouvoir donner une réponse qui représente vraiment la réalité, parce que ce sont plus les filles qui vont consulter, sachant que c'est une question de génération. Peut-être que si dans le passé, il y avait eu autant d'accès, de recours, de possibilités à la psychologie, eh bien peut-être que les mères auraient également consulté.
Est-ce que vous avez le sentiment que certaines femmes viennent d'une certaine mesure dans un esprit préventif? Je m'explique, parce qu'elles ont le sentiment d'avoir raté leur relation avec leur propre mère et elles ne veulent pas revivre cette souffrance avec leur fille.
Oui et non. Dans un certain cadre, c'est oui, une mesure préventive, parce qu'elles ont l'impression que c'est déjà dépassé, qu'elles ont une relation difficile et compliquée avec leur mère. Elles ont accepté ça comme étant un fait et puis elles ont choisi de continuer leur vie, de faire des enfants, d'avoir une famille à elles. Et elles remarquent, oui, comme vous l'avez dit, que vis-à-vis de leurs enfants, elles ont du mal à construire cette relation dont elles rêvaient, elles, étant enfants. Mais dans l'autre sens, c'est aussi parce que ces mêmes personnes voient leur mère avec leurs enfants dans une relation complice et elles se rendent compte que leur relation avec leurs parents n'était pas tout à fait idéale.
Alors, avant d'entendre les premiers témoignages, je voudrais qu'on aborde une notion, celle du respect, Soukaina Diop. Oser remettre en question certaines choses d'une génération à l'autre, on a déjà employé le terme de génération depuis le début de l'émission, poser des limites, dire stop. Est-ce que c'est aujourd'hui possible sans enfreindre les tabous familiaux et devenir en quelque sorte une mauvaise fille ?
Eh bien oui, les tabous familiaux permettent parfois de camoufler certaines difficultés et d'empêcher certaines conversations qui sont difficiles et qui auraient pu par contre faciliter la vie aux personnes qui les supportent, ces difficultés-là. Donc il est vrai que certains tabous, certaines obligations sociales empêchent de faire face à une personne plus âgée et d'exposer son point de vue, de pouvoir s'exprimer. Et la difficulté, c'est qu'on vit ça avec un sentiment d'injustice. Donc oui, je pense que ces éléments-là peuvent rendre plus compliqué le point de communication.
Ça veut dire qu'on va par exemple aller en parler à l'extérieur, mais pas régler le fond du problème.
Régler le fond du problème, ça serait choisir de faire face à la personne avec qui on a une relation difficile et de pouvoir exposer dans une conversation au calme, qui soit constructive. Et ça, ça demande aussi la coopération de la personne avec qui on discute.
Et du cadre aussi qui encourage ce genre de choses. On va tout de suite entendre nos premiers témoignages. C'est le moment de notre palabre féminin, enregistré cette semaine à Libreville au Gabon. Elles sont trois mamans autour du micro de Charlie Dupiot, Lynn, 29 ans, Nina, 39 ans, et Nadia, elle a 42 ans, c'est Nadia qui commence la discussion.
En fait, déjà, je vais enlever le fameux truc qui dit que les filles sont plus calmes que les garçons. Je vous dis que non. Moi, ma fille et moi, on a toujours été super proches, en fait. Mais c'est celle qui me demande beaucoup plus d'attention. Elle me demande beaucoup plus que les deux garçons, en fait. C'est qu'elle veut que je sois disponible H24. Je ne dois pas parler au téléphone. Si je parle au téléphone, c'est à ce moment-là qu'elle me parle, en fait. Si je fais un truc, c'est à ce moment-là qu'elle va venir me poser une question. Ou, en fait, c'est à croire... Je ne dois pas détourner l'attention d'elle.
Elle a quel âge, là ?
Elle a 11 ans. C'est incroyable, c'est fou. Tout ce que je fais, elle fait. Je vais prendre exemple sur les produits de beauté. Ce que je mets, elle va le mettre. Aujourd'hui, elle a de gros problèmes de peau à cause de ça, parce que je lui dis, mais c'est pas adapté à ton type de peau, en fait, et à ton âge. Donc, tu n'as pas à utiliser ces produits-là. Niveau vêtements, c'est la même chose. La phrase en ce moment, c'est « Maman, un jour, je vais prendre tous tes vêtements, je vais les porter. » En fait, c'est ça. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression de voir une mini-copie de moi, en fait.
Et qu'est-ce que ça vous fait, justement ?
C'est étrange. Parce qu'il y a vraiment, niveau caractère, il y a des similitudes qui sont juste incroyables. En fait, tu regardes l'enfant et tu dis « Mais c'est moi, quoi. »
À vous entendre, j'ai l'impression, moi j'ai un fils, j'ai pas encore de fille, mais quand j'aurai ma fille, j'aimerais entretenir justement, comme toi, comme vous deux, une relation fusionnelle, mère-fille, copine. Être dure, être douce, ça dépendra avoir un regard sur ses faits et gestes extérieurs. On ne sait pas qui tu rencontres dehors, on ne sait pas qui entraîne ton enfant, on ne sait pas en fait. Donc, moi, je pense que mes enfants, ils feront des arts martiaux. Ils feront tout. En fait, je pense que je vais tout mettre en place pour qu'ils apprennent à se défendre, que ce soit physiquement et même que ce soit psychologiquement.
Aujourd'hui, ma fille, elle est en cinquième et on voit déjà qu'il y a des comportements qui changent. Elle porte de l'intérêt pour les ongles et tout le reste. Bon, on regarde avec une distance. En fait, on se dit, ah, on dit au papa, regarde un peu ta fille. En fait, elle a vraiment grandi. Elle met du rouge, enfin du gloss, elle veut porter des talons, voilà quoi.
Mais justement, est-ce que le fait qu'elle va bientôt devenir une femme, ça vous inquiète ?
Oh, beaucoup. Énormément, parce que je sens qu'elles en parlent entre copines à l'école, parce qu'il y a des petites questions un peu subtiles qu'elles me posent, par exemple sur les menstrues. On voit du coin de l'œil qu'elles m'observent, comme moi je les ai. Et là, il faut commencer à se préparer, à parler d'une certaine manière, à conseiller. On va beaucoup plus couver et beaucoup plus protéger sa fille que son garçon. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est peut-être une histoire d'us et coutumes. On se dit toujours que le garçon est beaucoup plus fort. Moi, par exemple, à 16 ans, je ne pouvais pas me permettre ce que je permets à mon fils de 16 ans, mais que je, par contre, je ne permettrais pas à ma fille au même âge. Ça, je le sais déjà.
Par exemple ?
Sortir et être avec des amis tard, voilà, jusqu'à une certaine heure. Ça, je sais que je ne le ferai pas pour ma fille.
Alors que votre garçon peut le faire.
Alors que mon garçon peut le faire et que moi, en tant que fille, on ne m'a pas permise aussi, en fait. C'est comme une chaîne, parce qu'avec le recul, ça nous a servi.
Vous, Lynn, vous avez là un garçon, mais vous aimeriez avoir une fille.
Oui, parce que j'ai envie d'expérimenter cette relation mère-fille, parce que j'ai une vision sur ma relation mère-fille que j'ai envie de vivre, en fait, tout simplement, que je n'ai pas forcément vécu avec la mienne, même si ma mère, elle a toujours été là, elle est toujours... Ma mère, c'est le genre de maman qui m'a toujours dit « Ta copine, là, je ne suis pas sûre. » Et ça, c'est toujours avéré, en fait. Et ça, c'est toujours avéré. Voilà, donc toujours sur la défensive. Quand il s'agit de son enfant, c'est son enfant, elle est comme une lionne. Mais pas très partageuse sur les émotions, sur les ressentis. Et moi, j'aimerais être le genre de maman qui... Ah non, mais moi, quand j'avais tel âge, j'ai rencontré telle personne, ça s'est passé comme ci, comme ça. Bref, moi, je veux être ce genre de maman. Je veux être une maman copine, en fait.
Vaut mieux être en communication avec sa fille. Pour moi, c'est une grosse clé, en fait.
Elle continue à vous parler quand elle sera plus grande.
Oui, oui. Ça, sincèrement, je ne veux pas que ça s'arrête, en fait. Parce que moi, avec ma maman, ça ne s'est pas arrêté. C'est celle à qui j'ai vraiment tout dit, qui est plus au courant de tout que même que mes copines, en fait. Et c'est vraiment ce que j'essaye de reproduire avec la petite, en fait.
Témoignage avec Charlie Dupiot. Grand merci à la puéricultrice Cynthia Ngounou qui a permis de réunir ses mamans à Libreville. On l'entend, hein, des mères dans la palabre. Tout à l'heure, on aura des filles en ligne. Et vraiment, l'importance de la communication. On vous retrouve sous Kenya Diop. On a entendu l'expression « relation fusionnelle ». Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?
Eh bien, une relation fusionnelle, c'est une relation dans laquelle on ne distingue pas deux personnalités, deux personnes complètement différentes. Par exemple, lorsque la fille et la mère ne veulent pas se séparer, par exemple, pour le temps d'un week-end.
Donc, il y a un petit peu un contresens. Les gens qui disent « je rêve d'avoir une relation fusionnelle », c'est qu'on se trompe un petit peu sur le vocabulaire. C'est davantage cette relation qu'on entendait aussi tout à l'heure dans la palabre, c'est-à-dire la relation fille-mère-copine.
Bien sûr, la relation fusionnelle, dans ce sens-là, elle est positive. C'est une complicité, c'est une relation de grande communication où chacune est libre d'avoir son espace dans la relation et de faire entièrement confiance à l'autre. Mais en psychologie clinique, lorsqu'on parle de relation fusionnelle, on parle de fusion. Et la fusion, c'est quelque chose qui ne permet pas à l'une et à l'autre d'être indépendante.
On entend aussi pas mal d'idéalisation. Hein. Celles qui n'ont pas encore de fille s'imaginent avec cette fille rêvée une relation rêver un petit peu un conte de fées mère-fille.
Oui, mais elle le dit positivement, je pense. Hein. Et je pense que la première intervenante, elle a parlé d'observer sa fille grandir, mais aussi d'observer sa fille lui ressembler et être une version d'elle-même dans un âge actuel qui lui donne une forme de surprise par rapport à comment est-ce que les choses vont vite, mais aussi de l'angoisse par rapport à comment est-ce que justement ça va vite parce qu'elle voit sa fille grandir.
Une première auditrice tout de suite, on part pour le Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Alors en ligne avec nous, c'est Jelika. Jelika, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes âgée de 44 ans. Comment décrire votre relation avec votre mère ?
Je n'ai malheureusement pas une relation fusionnelle ni complice avec ma mère, parce que je n'ai pas grandi avec elle. Et ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon papa qui m'a élevée, et c'est beaucoup plus avec elle que la relation est plus que fusionnelle qu'avec mes propres parents.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez été confiée à votre grand-mère ?
Étant jeune, ma mère me disait qu'elle avait dû me laisser pour aller continuer ses études en médecine en URSS à l'époque. Et c'est très tard, je peux dire l'année dernière, juste que j'ai su qu'en fait, elle m'avait abandonnée. Elle ne voulait pas de moi, en fait. Pour elle, elle était allée me déposer chez ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère. J'ai connu mon arrière-grand-mère aussi, en disant une phrase du genre « Tenez, prenez-la, elle met un frein à ma vie. »
Comment est-ce que ces mots sont venus à vos oreilles ? Elle vous l'a dit en face à face ou c'est quelqu'un qui vous a répété ces propos blessants ?
C'est quelqu'un qui a répété, c'était elle. La dame était témoin qu'elle était là ce jour-là et elle est la cousine à ma grand-mère.
Mais pourquoi est-ce qu'on vous a dit ça ? Parce que c'est vrai qu'on peut entendre des choses blessantes dans la famille, mais on n'est pas obligé de le répéter au premier intéressé parce qu'on sait que ça va lui faire du mal. Pourquoi on vous a dit ça ?
Elle l'a dit suite à un échange qu'on avait. Elle était venue en visite et on échangeait. C'était par rapport à mon ancien mariage. Elle reprochait en fait le comportement de ma mère suite à cet événement. Et moi, je lui ai dit, mais non, en fait, maman, elle avait dû me laisser pour aller continuer ses études. J'étais à peine âgée de 5 semaines. Elle dit, non, c'est faux, elle t'avait abandonné. Elle est venue un jour à la maison, en taxi, elle est descendue à peine qu'elle t'a emballée dans un drap. Et elle est venue te déposer, te jeter dans les bras de ton arrière-grand-mère en disant que, tenez-la, elle constitue un frein à ma vie.
Est-ce que vous avez confronté votre mère à ces propos ou vous ne lui en avez jamais parlé ?
Jamais, parce que je la connais. Elle dira que c'est faux. Après, elle va se confondre en pleurs. Et moi, ça, c'est ce que je n'aime pas. Après, je me suis dit, bon, j'ai déjà une relation avec ma grand-mère, ça passe. Et après, j'avais trop de doutes, j'avais trop de questions. Et je voulais comprendre pourquoi je ne ressens pas ces sentiments-là comme les autres filles avec leur maman. Mais quand la grand-mère m'a dit ça, tout s'est imbriqué comme les pièces du puzzle.
Aujourd'hui, vous voyez encore votre mère ?
Oui, enfin du moins, on se parle, enfin on s'écrit, puisqu'elle n'est pas ici à Brazzaville, elle est en France, pour des raisons de santé.
Comment est-ce que vous décrivez ce qui vous unit à votre mère aujourd'hui ?
Bon, je m'étais toujours demandé, mais pourquoi est-ce que, entre guillemets, je n'aime pas ma mère ? Moi, aujourd'hui, si on me dit, écoute, elle est très hospitalisée ou bien elle est partie, ça n'aura pas le même impact que si on me disait, écoute, ta grand-mère est partie, ça. Le jour où ma grand-mère part, je crois qu'ils prendront du temps pour m'informer parce qu'ils sauront que ça me dévaste.
Ça va vous dévaster. J'ai une autre question. Est-ce que vous ressentez le besoin d'une grande explication ou les dés sont jetés, ça ne sert plus à rien ?
Oh non, ça ne sert à rien. C'est ma maman, je mène ma vie, elle, c'est bon, voilà.
Témoignage de Jelika, hein, de la distance sous Kaina Diop. Mais ce qu'on entend, c'est que la maman est loin, mais la grand-mère, elle est tout près, tout près.
Je pense que maman, c'est un rôle. On peut être une mère et pas une maman. La personne qui l'a occupée, c'est sa grand-mère. Alors sa mère, peut-être qu'elle l'appelle maman, mais elle n'a pas été sa maman. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été là pendant tous les moments auprès d'elle et elle n'a pas été la première personne à qui elle pense lorsqu'elle a envie de partager quelque chose ou à qui elle voudrait demander conseil. Par contre, il y a des antécédents de relations qu'elle a expliquées, comme par exemple ce qu'elle a entendu de sa grand-tante par rapport à ce qui s'est dit lors de son ancien mariage. Tous ces éléments-là ajoutent aux incohérences ou aux difficultés de sa relation avec sa mère. Mais je pense que c'est important de souligner le fait qu'il y a eu beaucoup de relais qui étaient là pour elle et qui l'ont soutenue pendant tous ces moments-là. Mais effectivement, ce qu'elle explique est très justifié. Le fait qu'elle n'ait pas de relation avec sa mère comme une maman, que ce ne soit pas la personne à qui elle veut se confier, sur qui elle compte et auprès de qui elle voudrait être, mais plutôt sa grand-mère dans ce rôle-là.
Un grand merci à vous, Jelika, pour votre témoignage. Vous avez choisi de nous faire partager une chanson, une voix plus grave que grave, hein, un titre qui est cinquantenaire, mais on ne s'en lasse pas, du baume au cœur. My first, my last, my everything. Nos priorités santé, vous l'aurez reconnu, c'est Barry White.
Kind of wonderful.
Émission Question de femmes sur RFI, on décrypte les relations mère-fille pour répondre aux auditrices de Priorité Santé dans les studios de RFI Dakar. Soukaina Diop, docteur en psychologie clinique à l'université Cheranta Diop. Et c'est de Marseille que Marie a enregistré ce message sur notre répondeur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41. Sa voix a été modifiée pour des raisons d'anonymat.
Bonjour, moi c'est Marie de Marseille. Alors ce sujet m'intéresse vraiment car moi je pense que je n'aime pas ma mère. Mais malheureusement, mon origine et ma religion ne me permettent pas de la sortir de ma vie. Je lui en veux à mort pour la mort de ma sœur, parce qu'elle l'a délaissée, l'a laissée livrer à elle-même au moment où elle en avait le plus besoin. Elle n'a jamais été présente pour nous pendant toute notre enfance. Les seules fois où je suis allée en vacances chez elle, 2 ou 3 fois à ce que je me rappelle, elle sortait toute la journée, me laissant toute seule, mais jusqu'à 22 heures dans une grande maison, une grande cour, dans laquelle j'avais très, très peur. Et jusqu'à présent, je pense que je vis avec cette peur, car je ne peux pas rester seule dans une maison. Elle est tellement égocentrique qu'elle pense que maintenant que moi, je ne vais pas être proche d'elle, c'est parce que sa sœur qui m'a élevée, qui a toujours été là pour moi, qui me conseille, même quand je ne veux pas être proche d'elle, qui me dit, mais attends, ta mère reste ta mère, quoi qu'il en soit. Elle pense que c'est cette bonne dame qui me met des idées en tête pour m'éloigner d'elle. Cette bonne dame fait tout pour que je me rapproche d'elle. Mais je ne peux pas parce qu'elle n'a jamais été présente pour moi pendant mon enfance. Et c'est quelqu'un qui pense toujours avoir raison. Du coup, quand tu lui dis qu'elle a tort, elle te maudit automatiquement. Je te maudis, j'aurais dû t'avorter. Mais ce sont des phrases qu'elle aime tellement sortir qui font que je ne veux même pas discuter avec elle. Parce que pour elle, seule son opinion compte en réalité. C'est vraiment lourd. Comment m'y prendre avec elle pour que ça ne joue pas sur mon mental?
Soukaina Diop, encore une histoire extrêmement douloureuse, on peut même dire très très violente. Hein, ces mots d'une grande violence, Marie qui a pu malgré tout, là encore, recevoir une autre affection, celle de sa tante. Mais elle a peur que cette relation puisse jouer sur sa santé mentale. Comment est-ce que vous réagissez?
Je pense que c'est difficile de pardonner, même à l'âge adulte, à des difficultés qu'on a vécues depuis si longtemps et pendant un âge si jeune. Du fait de ses origines culturelles, de sa religion, elle doit garder une relation correcte avec sa mère. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle n'a pas de sentiment positif envers elle ou qu'elle n'aime pas sa compagnie. Maintenant, par rapport à la question de comment est-ce qu'elle peut faire pour justement se mettre à distance des heurts que cela peut causer en elle, comme cette phrase terrible que sa mère lui a dit. Je pense qu'il est important de différencier les problèmes qu'on a soi-même des problèmes que les autres ont pour se sentir mieux. C'est-à-dire que si sa mère peut lui dire régulièrement ces mots durs, c'est que je pense que c'est sa mère qui ressent cette souffrance et que c'est à elle de gérer cette souffrance à son niveau. Mais que le fait qu'elle la communique à sa fille par ses mots durs à travers cette violence verbale, ce n'est pas quelque chose qui lui servira de prendre ces éléments-là personnellement. Parce que le travail à faire, c'est vraiment de réussir à se mettre à distance et de se dire que pour avoir tellement de violence dans ses mots, il faut avoir des choses tristes à vivre et des difficultés qu'on doit avoir du mal à vivre avec soi-même. C'est important de se mettre à distance et de lui laisser gérer ce bagage-là et de ne pas le prendre à sa place.
Prendre ses distances, quelque chose d'extrêmement complexe. Et on prend maintenant une auditrice en ligne du Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
On est en ligne avec vous, Christelle, bonjour.
Bonjour.
Alors Christelle, pour vous aussi, ça n'a pas été simple avec votre mère. Vous estimez avoir manqué d'affection quand vous étiez petite?
Bon, j'estime ne pas avoir reçu autant que j'en avais besoin. Un papa décédé quand j'avais 12 ans, une mère qui était à la fois père et mère. Donc, en grandissant, moi-même en devenant parent, j'ai compris qu'elle avait trop à faire pour donner à 6 enfants exactement ce qu'ils méritaient. Et moi, je pense que j'étais quand même vulnérable. Donc voilà pourquoi j'estime que je n'ai pas reçu ce que je méritais.
Ce que vous méritiez, est-ce que c'était pareil pour vos frères et sœurs? Est-ce qu'il y avait d'autres frères ou d'autres sœurs qui à vos yeux, ont reçu davantage?
Oui, ceux qui étaient plus petits recevaient plus que moi. Et déjà, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec ma mère, après que moi-même je sois devenue parent. J'ai compris que quand on a quand même autant d'enfants, on ne peut pas donner exactement à chaque enfant la même chose. Mais plus jeune, j'en ai en voulu à ma mère.
Vous en vouliez à votre mère. On entend, oui, que vous dites « j'ai manqué d'affection ». Mais aujourd'hui, vous parlez de ça au passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez fait la paix toutes les deux. Vous avez réussi à renouer une nouvelle histoire.
Oui, et en renouant une nouvelle histoire avec ma maman, c'est vrai que c'est plus jeune que je savais quel genre de mère je devrais être. Sans pour autant la diaboliser. Mais je savais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, que je m'interdis pour ne pas frustrer ou bien égarer mes enfants. Voilà pourquoi j'ai tenu à témoigner.
Ouais.
Je suis fière de la maman que je suis,
ouais,
les rapports qu'elle et moi avions. Je suis trop fière d'elle. C'est vrai que je ne lui dis pas très souvent, mais vraiment, j'ai tenu à participer à cette émission pour lui rendre hommage.
Vous dites « je lui rends hommage », mais vous avez plusieurs filles?
Non, j'ai une seule.
Une seule fille. Et vous, vous avez une relation exceptionnelle avec cette fille, c'est ça?
Très exceptionnelle.
Et justement, comment est-ce que cette fille parle de vous aujourd'hui? Vous parlez, par exemple, des difficultés que vous aviez eues avec votre propre mère?
Oui, oui, j'en ai parlé. Ça l'a amené aussi à comprendre pourquoi les conditions qui ont certainement amené ma maman à mettre ce fossé-là par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, je lui ai dit que si je suis bien aujourd'hui, si tu es fière de moi, c'est parce que quelque part, j'ai vécu ça. Depuis mon enfance, j'avais pris une décision d'être une mère géniale. Par exemple, il m'arrive de lui dire, je dis, tu sais, avec tes enfants, je viendrai souvent dans ta maison et puis je vais me mettre à quatre pattes, je vais jouer avec tes enfants. Donc, quand elle sera parent, je lui donne déjà un avant-goût. Je crois que j'ai la meilleure fille du monde.
Soukaina Diop, on a entendu justement cette déclaration d'amour d'une maman à sa fille. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, cette entente, cette éducation de partage et d'affection.
Oui, tout à fait, c'est un témoignage très émouvant. Je pense que c'est important justement ce qu'elle a dit, son choix de choisir la relation qu'elle voudrait avoir avec sa fille, de la construire à la manière dont elle voudrait qu'elle soit et justement de promouvoir ça dans le futur pour que sa fille aussi puisse construire de belles relations avec ses enfants. Et je pense que c'est très important tout ce qu'elle a dit.
En tout cas, on vous remercie infiniment, hein, Christelle, pour ce témoignage. Et maintenant, on va partir pour la Côte d'Ivoire, à Abidjan, où on retrouve en ligne Anissa. Anissa, bonjour.
Bonjour, Christelle Santé.
Vous êtes âgée de 42 ans. Cette relation avec votre mère, vous la qualifiez de particulière. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu différentes étapes?
Oui, parce que j'ai quitté ma maman, elle m'a donné en adoption à ma grande sœur à l'âge de 9 ans. On ne s'est vraiment pas retrouvés et comme j'expliquais même à mon enfance, je n'ai pas le souvenir que j'ai eu une relation d'amour entre mère et fille. Parce que avant que je ne parte chez ma grande sœur à 9 ans, parfois je dormais avec ma maman et quand je voulais me coller à elle ou faire des câlins, elle me repoussait.
Est-ce que vous avez des souvenirs de cette séparation qui s'est produite à l'âge de 9 ans?
Oui. Après moi, ma maman a eu des jumelles. On est sept enfants. Moi, je suis l'avant-dernière. Avant moi, j'ai un grand frère. Il y a 2 ans d'écart entre mon grand frère et moi. Et mes petites sœurs et moi aussi, il y a 2 ans. Donc, elle a décidé de me donner à ma grande sœur qui venait de se mettre en couple avec son mari, quoi.
Et justement, est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez l'impression que dans votre vie, vous ressentez des moments de fragilité, de faiblesse que vous liez à cet événement de votre vie?
Bien sûr. Parce que maintenant, elle a un téléphone depuis des dizaines d'années. Elle n'a jamais utilisé son téléphone pour m'appeler. C'est moi qui appelle et c'est rien qu'il y a 2 ou 3 semaines que j'ai eu le courage de lui dire « Mais pourquoi tu ne m'appelles pas ?» Et là, elle est restée silencieuse, elle m'a rien dit. Elle a dit « Ah !» Et puis c'est tout. En 2009, je crois que j'ai mis sur table, j'ai dit à mes grandes sœurs, mes frères, que j'ai l'impression que ma maman ne m'aime pas. Et là, c'est devenu tout un problème au sein de notre famille. Ils ont commencé à dire que moi, je vais diviser la famille. Pourquoi je me choisis pour dire que notre maman ne m'aime pas? Alors que c'est ce que je ressens, que je voulais exprimer. Donc depuis ce jour, je n'ai plus évoqué ce sujet.
Vous avez le sentiment que les autres n'ont pas envie d'en entendre parler, de ces problèmes, de cette douleur que vous ressentez. Vous, vous avez des enfants. Comment est-ce que ça se passe avec eux, Anissa?
Alors, j'ai une fille, elle a 12 ans.
Ouais.
Je n'arrive pas à faire de câlins à ma fille. Et quand elle s'accroche trop et moi, je la repousse parce que je ne comprends pas.
Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, parce que j'entends que c'est difficile hein, d'en parler, est-ce que vous avez pensé à un moment en parler à quelqu'un, un professionnel de santé, un psychologue ou jamais?
Jamais, jamais. Parce que je n'y pense pas forcément et je me dis qu'il n'y a plus de solution. Moi, j'ai 42 ans, ma maman, elle a, je crois qu'elle a 75 ou 80, je ne sais pas.
Mais moi, j'ai une question justement, Anissa. Vous dites, j'ai jamais eu l'occasion ou l'envie d'en parler à un psy. Par contre, aujourd'hui, vous avez décidé d'en parler dans Priorité Santé. Alors pourquoi?
Oui, parce que souvent, je me dis que je ne vais pas reproduire les mêmes... Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est sa manière de nous éduquer, mais comme les autres n'en parlent pas au sein de ma famille, je ne pense pas que ce soit un problème pour aller voir un scolaire pour ça.
Ça veut dire quand même que vous n'avez pas envie de rester avec votre paquet, avec votre histoire et de continuer avec ce poids.
Oui, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour éduquer nos enfants. Et parfois, elle plaisante devant des amis, elle vient me faire des câlins et puis elle n'arrête pas. Quand je la repousse, elle rigole, elle dit « ma maman n'aime pas les câlins ».
Oui, mais excusez-moi, quand vous la repoussez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Ben, je trouve qu'elle en fait trop. Le câlin, c'est pas... Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Moi, j'avais peur de dormir et quand je m'approchais trop de ma maman, elle me repoussait.
Oui. Mais vous êtes quand même en train de nous dire aujourd'hui que ça vous pose problème, que votre fille, elle pense ça de vous. Et d'une certaine manière, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour élever les enfants, mais il y a peut-être des conseils pour justement se rapprocher d'eux. Soukaina Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire à Anissa? Elle explique des choses très compliquées, très douloureuses, mais en même temps très belles.
Oui, effectivement, c'est un témoignage qui est fort en émotion. Moi, je pense que parfois, on se voit en ses enfants et on voit certains aspects qui sont des souvenirs, des ressentis qu'on a eus dans le passé. Et le fait qu'on n'arrive pas à y faire face soi-même fait qu'on n'a pas envie de le voir en face, de les sentir, de les entendre, tous ces éléments-là. Donc, cette relation de câlin, de proximité physique avec votre mère que vous n'avez pas eue, peut-être que lorsque vous voyez votre fille faire cette demande, ça vous ramène dans ces sentiments-là et que c'est pour ça que c'est difficile à gérer. Et je pense que le premier pas pour aller vers une reconstruction, vers construire autre chose justement face à ces émotions-là avec votre fils, c'est justement d'en parler et c'est ce que vous faites et c'est très positif de pouvoir essayer de mettre des mots sur ce point-là. Maintenant, le fait que vous ayez pu voir que dans la famille, on a choisi de ne pas en parler et que c'est un sujet tabou dans la famille, fait que ce chemin-là n'existe pas et ça ne va pas résoudre de problème, le fait de parler avec eux de tout ça. Mais le fait de trouver d'autres alternatives, d'autres voies, c'est important. Donc peut-être qu'avec votre fille, comme elle a 12 ans, vous pouvez en parler. Est-ce que c'est parce que tu as peur que tu t'approches de moi la nuit? Est-ce que c'est parce que tu ne te sens pas en sécurité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te sentes mieux? Peut-être qu'en parler avec elle, ça vous permettra aussi de gérer ces sentiments, ces souvenirs que vous-même vous avez.
Anissa, vous disiez tout à l'heure, j'ai pas vraiment eu ni l'occasion ni l'idée d'aller en parler à un psy. C'est quelque chose, une idée qui pourra avancer dans votre tête ou c'est trop compliqué?
Je n'ai jamais pensé à ça, mais si vous me dites que c'est nécessaire, j'essaierai de prendre rendez-vous pour...
Moi, je peux pas vous dire que c'est nécessaire. Je sais pas quelle est votre opinion là-dessus, Soukaina Diop. Si vraiment Anissa, elle a envie d'alléger cette relation, est-ce que c'est quelque chose qui peut lui être suggéré?
Je pense que tout dépend de comment est-ce que ça va se passer d'en parler avec sa fille.
Ouais.
Et ensemble, peut-être qu'elles pourront mieux aborder cette question et trouver leur manière à toutes les deux d'aborder ça, de pouvoir démontrer leurs sentiments l'une envers l'autre. Et ensuite, lorsque elles auront commencé cette conversation, peut-être qu'elle verra qu'il y a peut-être des blocages pour aller plus loin dans cette conversation et dépasser cette gêne. Et là, peut-être qu'elle choisira elle-même qu'elle veut aller voir quelqu'un ou amener sa fille voir quelqu'un, un psychologue. Mais sinon, je pense qu'au niveau où ça se passe là actuellement, c'est le premier pas d'en parler et ensuite d'en parler ensemble.
Un grand merci Anissa pour ce très très beau témoignage. On parle de figure maternelle, on l'a compris hein, depuis le début de cette émission, qui peut exister en dehors de la seule maman, mère biologique, problématique qu'on retrouve avec le témoignage de cette auditrice de Côte d'Ivoire. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé. Quelle place accorder à une mère biologique qui n'a jamais été là pour vous? Voilà, vous êtes mise au monde, mais elle n'a jamais été là. Je dis ça parce que ce sont les grands-parents voilà, qui m'ont éduquée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je devienne quelqu'un. Et je l'ai connue tout récemment. Il y a un peu longtemps que je l'ai connue, mais cette relation filiale entre mère et fille n'existe vraiment pas. Donc du coup, je ne sais pas quelle place lui accorder. Merci beaucoup et puis bonne émission à vous. Au revoir.
Soukaina Diop, parcours que connaissent beaucoup de personnes quand l'enfant est confié, éduqué par un tiers. Est-ce qu'en consultation, c'est une problématique que vous rencontrez souvent ?
Je ne dirais pas souvent, mais oui, c'est une problématique que j'ai déjà rencontrée.
Est-ce que l'absence prolongée durant l'enfance, ça va être une vraie question tout au cours de la vie sur la nature du lien, d'un lien qui peut être différent, mais un lien qui existe et qui est très fort ?
Effectivement, l'absence du parent pendant tout le temps de l'éducation et pendant tous les moments importants de la construction d'un individu, ça fait une très grande différence dans les sentiments, dans la relation qu'on en construit avec cette personne. Parce qu'une relation, ça se construit dans la présence, pas forcément la présence physique permanente, mais la présence dans la vie de la personne, par téléphone, par présence virtuelle, par présence physique. C'est la présence d'un parent qui permet de consolider ce lien.
On va prendre tout de suite en ligne une dernière auditrice. On part pour ça à Dakar, chez vous, où on retrouve Christelle. Christelle, bonjour.
Bonjour.
Alors Christelle, vous aussi une relation très compliquée avec votre maman. Pas mal d'absence. En revanche, vous aviez un papa qui était présent, lui.
Oui, papa était très présent. Tant plus qu'il était bon, à son propre compte, donc il n'avait pas vraiment d'heure de travail fixe et tout. Donc il était assez présent et plus proche de nous. Et on n'avait plus à parler, j'avais plus à parler facilement avec papa et que maman.
Et pourquoi votre mère était-elle si peu présente ? Est-ce que vous avez eu des explications pour comprendre ?
Disons peut-être que ça vient aussi peut-être un peu de son éducation. Elle travaillait, elle était fonctionnaire, donc elle a été vraiment appelée à aller au travail et à voyager aussi parfois. Mais surtout, au-delà du fait qu'elle travaille, quand elle est là, le lien ne dépasse pas vraiment, n'entre pas vraiment dans une certaine intimité. Il n'y a pas de gestes, il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a pas de preuve d'affection importante. Il n'y a pas vraiment d'intimité, pas de petites discussions, il n'y en avait pas du tout.
Un manque de tendresse. Est-ce que c'était pareil pour vos frères et sœurs ou pas vraiment ?
Pas trop par rapport à ma grande sœur, mais... Je peux dire que sur le plan de l'intimité, c'était pareil. Mais ma sœur, elle a, disons qu'elle a eu 6 ans d'écart entre nous. Du coup, elle a passé plus de temps avec elle quand elle n'était pas encore en train de travailler. Ce qui fait qu'il y a eu un lien plus fort entre elles que par rapport à moi. Mais l'affection, des gestes et des mots d'amour et de tendresse et tout, c'était pareil.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas ou est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux avec cette maman ?
Ça va mieux en ce sens que, bon, récemment, on a pu en reparler quand j'ai eu à accoucher, où elle me voyait avec mes petites filles et comment je leur dis souvent que je t'aime, je les prends dans mes bras, je les embrasse et tout. Et elle a eu peut-être une petite conscience de la chose et on a eu à en parler. Elle s'est excusée du fait qu'elle n'a pas su exprimer la tendresse et l'amour qu'elle avait envers moi. Et qu'elle n'a pas su créer une certaine intimité entre nous, en fait.
Ces mots d'excuse, est-ce qu'ils ont en quelque sorte réparé quelque chose chez vous ?
Oui, ça m'a fait du bien de voir qu'elle en a pris conscience. Elle a parlé du fait aussi qu'elle aussi, en son enfance, elle n'a pas connu ça du tout. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est difficile pour les parents de dire aux enfants qu'ils les aiment ou de créer une certaine intimité où on peut se parler. On peut parler de tout facilement, surtout par rapport... Je sais pas, à l'éducation sexuelle, à la vie avec les garçons, l'adolescence, la puberté, tout ça. Même par rapport au menstrues,
oui.
J'ai eu plus de facilité quand c'est arrivé. Ça ne me voit pas que j'en ai parlé en premier.
Ouais.
Donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait du bien quand même de voir qu'elle en a pris conscience. Et puis voilà, ça m'a fait du bien quand même.
Ça vous a fait du bien ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez appris de cette relation et qu'aujourd'hui vous donnez énormément d'amour à vos filles ?
Oui, j'ai beaucoup appris. Je me suis dit depuis toujours, je me suis dit quand j'aurai mes enfants, je ne ferai pas la même chose. Et avec mes filles, j'essaie de créer vraiment une relation très, très fusionnelle avec elles. Et au point où parfois j'ai peur de surprotéger, par peur de ne pas reprendre les mêmes erreurs, j'ai parfois peur d'en faire trop, mais quand même, j'ai beaucoup appris. Je sais ce qu'il faudrait pas du tout que je fasse, parce que je sais comment ça s'est passé avec moi, ce que ça a pu créer en moi, ce que ça m'a fait faire, ce genre de conflit. Et du coup, je voudrais pas que mes filles vivent la même chose.
En tout cas, quand on vous écoute, Christelle, on entend que vous avez vécu un moment précieux avec votre mère quand il y a eu cette discussion qui n'a pas été une dispute, quand il y a eu ces excuses qui vous ont permis de vous réparer. Aujourd'hui, vous avez une belle relation avec vos filles. On peut dire que vous avez plutôt un beau chemin derrière vous.
Oui, oui, non. Mais quand même, par rapport à mes filles, j'ai toujours peur de faire trop, de les surprotéger. Et aussi, de ne pas faire assez. Je me demande juste comment calibrer.
Vous êtes très exigeante avec vous-même. Hein, Soukaina Diop, on entend une super maman qui doute d'elle. En même temps, c'est pas mal de douter. Mais elle a fait un sacré parcours par rapport à sa mère et par rapport à ses propres filles.
Oui, effectivement, et je pense que vous avez vraiment démontré comment vous-même vous avez évolué dans ce parcours, comment vous avez pu accepter qu'elle n'allait pas être forcément très présente pendant l'adolescence, pardon, et puis ensuite prendre votre propre indépendance et ensuite reconstruire cette relation avec votre mère. C'est un travail que je pense que vous avez mené principalement et qu'ensuite votre mère vous a rejoint dans ce mécanisme-là, et je pense que toutes les deux, vous avez pu travailler à construire cette nouvelle relation. Maintenant, votre relation est effectivement telle que vous la décrivez, très forte avec vos deux petites filles, mais je pense qu'elles sont très jeunes, si j'ai bien compris, elles ont 2 ans et 8 mois. Donc, je pense que dans ces moments-là, c'est encore important de vivre cette présence importante de la maternité, si c'est comme ça que vous sentez les choses, si c'est comme ça que vous avez envie d'être présente auprès d'elles. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi l'idée qu'il est important d'avoir son équilibre en soi-même et que vous ayez du plaisir à avoir des activités toute seule sans vos filles. Et ça se reconstruit. Mais je pense que votre fille ayant 8 mois, la dernière, c'est encore tôt pour que vous puissiez construire cet espace à vous et que c'est quelque chose qui va aller en progrès de plus en plus. Maintenant, il n'est pas dit que si une relation dans le passé ait été... et vous est lésé, c'est-à-dire que votre mère ne vous ait pas donné toute l'attention que vous auriez pu avoir et ce qu'elle aurait pu vous donner, que si vous donnez beaucoup d'attention à vos deux filles pendant ce court temps, ce soit quelque chose qui soit aussi un excès ou aussi une difficulté. Il se peut que ce soit une relation différente qui va avoir son chemin, qui va se construire à son rythme et que ce ne soit pas une répétition.
Ni une compensation.
Exactement.
En tout cas, Christelle, quand on vous entend, on entend une maman qui a beaucoup appris. Elles s'entendent bien avec vous, les petites? Bien sûr, la petite de 8 mois, forcément, elle s'entend très bien avec vous. Et la plus grande, ça se passe comment?
Ça se passe super bien. C'est vrai qu'elle est très, comme toutes les filles, elles sont très attachées à leur papa. Mais ça n'empêche que nous sommes très, très, très proches. Très proches, ça se passe super bien. Et elle sait déjà dire « je t'aime » et tout. Et elle n'hésite pas du tout aussi à le dire, et moi aussi en retour. Donc voilà, ça se passe super bien.
Ça fait chaud au cœur à entendre, Christelle.
Que ça continue ainsi.
Que ça continue comme ça. Très bonne journée à Dakar. Merci pour ce partage. Un grand remerciement pour vous aussi, Soukaina Diop, pour avoir répondu à nos auditrices, cet éclairage aujourd'hui dans notre émission Questions de femmes. À très bientôt.
Merci à vous. À très bientôt.
Et on va se laisser avec cette chanson de Luigi, Mami, sur RFI.
Hey, mami, des fois je me demande à quoi ressemblerait ma vie si jamais je ne t'avais jamais désobéi. Ouh, c'est terrible, elle a failli cacher le génie. Ouh, mamie chérie, de loin la femme à qui j'ai le plus menti, à qui j'ai dû cacher les plus grosses dingueries. Mais j'ai grandi, oui j'ai grandi pour mieux cacher les nouvelles. Déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je n'ai jamais vraiment aimé comment on s'habille. Ton petit ami, skinny jean troué, qui s'arrête aux chevilles. Ouh, débi, où sont donc passés tes jolies valises? Ça me fait tellement mal au cœur, c'est pas joli quand tu les redis. Je n'ai rien dit tant que tu te sens belle. Oh mamie.
Depuis tout petit, je te vois comme un gangster. Comme c'était chaud, toi t'as couvert ton grand frère. Je veux qu'on quitte l'enfer, que papa se repose et qu'il devienne grand-père. Viens qu'on monte une affaire tous les deux, qu'on change les règles du jeu. Te saper comme tu veux, te coiffer comme tu veux. Sky priorité, voyager avec eux quand tu veux. On sera toujours heureux, tant qu'on leur donne beaucoup, qu'on se contente de peu.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Talim Pouo, Ophélie Lassen, Louise Kaledek, à Dakar, Malin Sanko. Et ici, Didier Bleu et Laurent Philippot à la réalisation. Lundi dans Priorité Santé, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous allons parler du viol conjugal, violence au sein du couple, rapport sexuel non consenti, avec ou sans brutalité, identifier, prévenir, prendre en charge. On se donne rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.